La première question sur le Parlement, c'est quelle est votre avis, la plus grande contribution que ce Parlement, que le Parlement peut nous donner à l'heure actuelle?
La plus grande contribution du Parlement, c'est sa nature même. Mm-hmm. Et le Parlement doit être vraiment international. Ça ne doit pas être une émanation des idées européennes ou des points de vue européens. Il se trouve que, historiquement, c'est né après les rencontres du carrefour européen des littératures. Mais il faut dépasser ce cadre et il faut que le Parlement corresponde à une situation réelle de la littérature d'aujourd'hui, qui est que le monde, à mon avis, est l'objet le plus haut de littérature.
C'est l'objet?
L'objet le plus haut, de littérature. À savoir que tout ce qui se passe maintenant, cette espèce de mélange extraordinaire et de contact extraordinaire entre toutes les cultures du monde est en train de changer les mentalités des humanités d'aujourd'hui. Je ne dis pas de l'humanité, disons des humanités d'aujourd'hui. Sans que ça verse dans l'apartheid, il faut qu'on ait conscience qu'il y a un problème aujourd'hui qui est que chacun, chaque communauté doit garder, préserver et développer ce qu'on appelle son identité, disons ses caractéristiques, ne doit pas se perdre dans une sorte de magma universel, mais qu'en même temps, les communautés ne peuvent pas se renfermer sur elles-mêmes et entrer dans une sorte d'isolement et d'exclusion de l'autre. C'est difficile, c'est difficile. Et il me semble que ça, c'est un enjeu global qui est l'enjeu même de la littérature. La littérature, c'est d'exprimer ce qui est difficile à concevoir, à percevoir, des états d'ambiguïté, des états de difficulté, des impossibles. La littérature, c'est toujours la recherche d'impossibles. Et cette situation mondiale à l'heure actuelle crée un nouveau champ de l'exercice littéraire. Il ne s'agit pas de faire des travaux pratiques, des exercices appliqués sur la situation du monde. Il s'agit d'être sensible à cette situation. Il s'agit d'être en symbiose avec elle et d'essayer de dans ce magma, dans cet imbroglio, tout ce mouvement de ce que j'appelle le chaos monde, il s'agit de savoir où sont les variations d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, et où sont les invariants. Et les invariants, ce ne sont plus les valeurs soi-disant universelles qu'on nous a imposées jusqu'ici. Les invariants, il faut que nous les trouvions nous-mêmes. Il faut que nous vivions de les trouver et de les exprimer. C'est ça la fonction de la littérature. Et il me semble que la contribution la plus haute que le Parlement international des écrivains peut apporter, c'est justement de signaler cette multiplicité, cette diversité du monde qui n'empêche pas la recherche d'une unité, ou plutôt de plusieurs unités.
Dites-moi, Lord Glisson, dans votre pays, quels sont les sujets qui ne peuvent pas être abordés parce qu'ils impliquent la censure ou un risque de vie?
Écoutez, la situation dans les Antilles françaises et très francophones est très particulière. Je dirais que il s'agit presque pas de censure, mais d'autocensure. C'est-à-dire que les phénomènes d'assimilation disons, au mode de vie, au type de vie français sont tellement profonds que l'appareil d'État français n'a presque plus besoin d'intervenir au niveau de la censure. C'est une sorte d'auto-censure qui est pratiquée par les Antillais francophones. Et par conséquent, on n'a pas besoin d'interdire des points de vue. Il me semble que nous les interdisons nous-mêmes. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que, à côté de cela, il y a tout un mouvement qui est absolument fantastique vers la Caraïbe et vers les Amériques, en particulier l'Amérique du Sud. Et par conséquent, il y a ces deux choses-là. Il y a une espèce de fascination inculquée, mais qui est devenue presque naturelle pour le modèle européen et en particulier français. Mm-hmm. Mais il y a aussi une espèce d'ouverture fantastique à la Caraïbe, mm-hmm. et aux Amériques. Dans toutes sortes de domaines, d'ailleurs, c'est pratiquement généralisé. Le vêtement, le sport, par exemple, il y a, chez les jeunes maintenant en Martinique, en Guadeloupe, il y a une sorte de fascination pour les modèles noirs américains. Michael Jordan, c'est généralisé dans le monde, mais ça existe là. Les vêtements, etc. Une américanisation au sens des États-Unis, mais sur le mode des modèles noirs américains. Mm-hmm. Ça a quelque chose de bon, mais ça a quelque chose de très mauvais aussi. N'est-ce pas?
Pourquoi?
Parce que c'est toujours mauvais d'avoir des modèles importés. Mais même si c'est des bons modèles,
bien sûr,
n'est-ce pas? Mais ce que je crois réellement, c'est que dans toute la Caraïbe, il y a maintenant des contacts qui se tissent. Vous savez, dans le temps, il y a 30 ans, 20 ans, la Caraïbe était extrêmement balkanisée. Il y avait la Caraïbe anglophone, la Caraïbe hispanophone, la Caraïbe francophone, la Caraïbe hollandophone, et tout ça ne se mélangeait pas. Aujourd'hui, il y a tout un mélange. Et cette pratique de communication dans la Caraïbe favorise l'ouverture de la Caraïbe sur l'Amérique latine. Et par exemple, il y a le même... On prend conscience... je travaille beaucoup dessus, on prend conscience à Martinique et à Guadeloupe de ce que j'appelle les phénomènes de créolisation. Or, ces phénomènes de créolisation, nous ne les inventons pas, ils sont là depuis toujours, seulement nous en prenons conscience mais maintenant. Et c'est les mêmes phénomènes de créolisation qui, je pense, à un moment ou à un autre, ont pu se produire au Brésil. Mais... peut-être qu'on n'en prend pas conscience. On les vit sans
justement,
réfléchir.
Justement, j'allais vous poser une question concernant les deux écrivains, les écrivains antillais et les écrivains brésiliens. Parce que, comme les antillais, nous sommes plutôt des pratiquants de l'oralité. Mmh. C'est-à-dire, nous n'avons pas des lecteurs, nous avons
des auditeurs.
Des auditeurs. Mmh. Donc, nous contrarions la tendance naturelle de notre culture quand on écrit. Mmh. La position de cet écrivain brésilien est donc particulièrement difficile. Mmh. Et je voudrais... Et il est comme vous avez dit ailleurs, des Antillais, il est un combattant. Mmh. Qu'est-ce qui justifie ce combat dans la société brésilienne comme dans la société antillaise? Pourquoi ne pas devenir chanteur ou autre chose, vous comprenez? Pourquoi insister
Parce que... je crois à quelque chose. S'agissant des problèmes de l'oral et de l'écrit, si nous remontons au début de ce que j'appelle les civilisations ataviques, on voit qu'à ce moment-là, avant l'invention de l'écriture, il y a des civilisations orales, des cultures orales, et au moment où l'écriture paraît, on fait le passage de l'oral à l'écrit. C'est-à-dire que, par exemple, les textes de l'Ancien Testament ont d'abord été dits avant d'être écrits. Les poèmes homériques ont d'abord été dits avant d'être écrits. Donc, il y a eu un passage de l'oral à l'écrit. Et pendant deux millénaires, on a vécu, les humanités, surtout en Occident, ont vécu sur l'idée que l'écrit était transcendant par rapport à l'oral. C'est-à-dire que si on n'était pas une civilisation de l'écriture, on était infériorisé. Les civilisations orales étaient considérées comme inférieures aux civilisations de l'écriture. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, dont l'émergence des vieilles cultures orales en Afrique et dans d'autres continents, mais aussi pour la raison que les techniques modernes portent à l'oralité. Les techniques modernes de communication, la radio, la télévision, portent à l'oralité. Et on a cessé de considérer l'écriture comme transcendantale par rapport à l'oralité. On commence à se rendre compte que...
Dans ce cas, en quoi se justifie qu'on contre la nature de nos cultures,
parce que, à mon avis, si nous ne faisons pas l'expérience de l'écriture par exemple les cultures occidentales l'ont fait, ce qui se passe en ce moment, c'est une espèce de... On essaie de trouver des formes nouvelles de création où l'écriture, le texte, l'image, le son le dessin et la couleur pourraient être combinés. Mmh. Déjà. Mais si nous ne faisons pas l'expérience de l'écriture, nous entrons dans ce débat avec quelque chose qui nous manque.
En moins.
N'est-ce pas? Et il me semble que c'est extrêmement intéressant pour nous, pour les peuples des civilisations orales, de montrer que nous pouvons avoir une pratique plus ouverte, plus synthétique, plus combinatoire de l'écriture. Et que nous pouvons faire servir l'écriture dans le cadre de nos cultures à l'expression de nous-mêmes. Et même plus important encore, je crois, nous pouvons montrer qu'on peut changer l'écriture avec les techniques de l'oralité. Tout ce débat-là est extrêmement intéressant, beaucoup plus intéressant que si nous disions « Ah, nous sommes des peuples de l'oralité, donc l'oralité nous suffit ». Il me semble qu'il faut toujours prendre chez les autres ce qu'on peut prendre et tendre vers des solutions de synthèse et non pas vers des solutions d'enfermement.
D'accord, bien sûr.
Oui. C'est pourquoi je pense que, par exemple, quand j'écris dans la langue française et que j'applique à la langue française une économie de l'oralité, qui est l'économie du conteur créole, nous essayons de bâtir quelque chose qui est un dépassement de tout, un dépassement de l'écriture telle qu'on l'a pratiquée,
des genres littéraires,
etc.
Mais le marché a une tendance à ne pas accepter ce type de texte.
Ah oui, c'est
vrai. Et l'écrivain qui est fidèle à la poétique de sa langue a une tendance à disparaître.
N'a pas tendance à disparaître. Une tendance à être moins rapidement accepté et perçu et assimilé. C'est par exemple ce qui m'est arrivé. En France, pour le public français, ce que j'écris est difficile. Mais ce que j'écris est difficile parce qu'il y a cette intrusion des techniques de l'oralité dans l'écriture. Et comme ce n'est pas dans le génie de la langue française, Alors, pour les gens, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais peu à peu, leur rétablissement se fait. Peu à peu, leur rétablissement se fait. Par exemple, ce que je dis, le discours que je tiens, en ce moment, est extrêmement entendu dans les milieux européens et français, alors qu'il y a 20 ans, 25 ans, il n'était pas du tout. C'est ça. Et il faut s'obstiner, et il faut pas tenir compte des rejets. Mm-hmm. Les rejets sont toujours temporaires, passagers. Et il faut avoir la certitude de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire.
Voilà. Mm. Vous dites que l'imagination doit féconder le concept, en quoi vous brisez aussi une règle. Mm. Vous pourriez dire deux ou trois mots là-dessus?
Il est évident pour moi que même au départ des cultures occidentales, la pensée poétique est primordiale. C'est-à-dire que, par exemple, chez les pré-socratiques, il n'y a pas de séparation entre le monde et l'homme. Il n'y a pas de séparation entre le monde et l'homme. Mais c'est après Socrate que tout le mouvement des cultures occidentales a porté vers une rationalisation. C'est ça, une rationalisation qui a séparé l'homme du monde. Et dans ce cadre-là, le poétique, qui est le mode de connaissance par lequel on ne sépare pas l'homme du monde, était devenu secondaire par rapport au rationnel. Mais dans beaucoup d'autres cultures, d'autres civilisations, les civilisations africaines ou les civilisations amérindiennes, par exemple, le poétique était aussi primordial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'humanité et son environnement. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui, les mouvements écologiques dans le monde entier? Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire, si tu touches à la terre, au fleuve, à l'air, aux montagnes, et tu fais mourir l'homme. C'est-à-dire que c'est un retour au poétique. C'est un retour à l'idée que il y a une forme de connaissance qui n'est pas séparable de la palpitation même du monde, et que il faut concevoir et accepter cette connaissance. C'est ce que je dis quand je dis qu'aujourd'hui l'imaginaire du monde, l'imaginaire de la relation de l'homme au monde, l'imaginaire de la totalité des énergies doit venir féconder le concept et le sortir de son splendide isolement. Et c'est d'autant plus faisable aujourd'hui que toutes les cultures non occidentales qui n'étaient pas basées sur la rationalisation abusive sont en train d'apparaître sur la grande scène du monde. Et je pense que l'effondrement des pensées de système, les pensées du socialisme, du communisme, de l'existentialisme, tous ces systèmes de pensée qui s'effondrent, favorisent la recherche et l'apprentissage d'une nouvelle manière de penser, beaucoup plus fragile, beaucoup plus incertaine, mais qui est moins tyrannique et moins impérative, et qui correspond bien à la situation du monde actuel.
Bon, j'avais une dernière question. Ça va. On a déjà parlé du Parlement. Voilà. C'est bien.
Ça va.
Ça valait la peine d'être venu. La principale contribution possible du Parlement et de celui-ci en particulier.
Alors, comme vous l'avez vu, D'une part, nous avons déjà protesté contre l'interdiction faite à Soyinka, qui est un événement majeur, le fait que le gouvernement nigérien ait empêché le prix Nobel de franchir la frontière. Nous avons parlé tout à l'heure avec des représentants du Nigeria pour encore insister sur notre protestation et nous avons une réponse. Je crois que vous avez vu, nous avons écouté Dusty Manastrin, l'écrivain Egyptien Lalal, et bon, ayant réuni tous ces témoignages et ces discussions, nous allons demain annoncer un certain nombre de résolutions, publier un certain nombre de textes, et parmi les actions concrètes, il y aura d'abord une poursuite de notre politique de ville-refuge, c'est-à-dire, comme vous le savez, il s'agit de la part d'un certain nombre de grandes villes d'offrir, indépendamment de l'autorisation gouvernementale de l'État, d'offrir un refuge, c'est-à-dire un hébergement, la possibilité de travailler à des écrivains persécutés. D'autre part, nous allons faire le maximum pour informer, non seulement sur les grands cas spectaculaires comme Rushdie, Nasrin, etc., mais sur un grand nombre de persécutions analogues en Algérie. Vous avez entendu qu'il était question de ce qui se passe en Algérie. Nous aurons cet après-midi et demain matin un rapport sur la Colombie. Donc nous allons essayer de faire circuler au maximum ces informations pour mobiliser l'attention et exercer une pression sur les États. Voilà, et nous organiser, parce que c'est la première grande réunion solennelle, nous organiser pour qu'il y ait une sorte de décentralisation, qu'il y ait pas seulement un Parlement qui se réunisse en Europe, mais qu'il y ait, comme Glissant le projet, par exemple, des assises du Parlement dans les Caraïbes au printemps, et d'autres réunions analogues. Voilà.
Oui, mais vous avez insisté quand vous avez parlé sur le besoin que le Parlement ne tombe pas dans une voie empirique, qu'il puisse réfléchir.
Voilà. Il y a eu, comme vous l'avez peut-être senti, une tension entre deux motifs qui sont, à mon avis, également légitimes, mais qui quelquefois entrent en contradiction, c'est-à-dire la nécessité de répondre aux urgences dont nous ne décidons pas pour lesquelles on ne peut pas attendre, et puis d'un travail de réflexion de fond sur notre propre responsabilité, sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec les États, les nations, les groupes qui ne reconnaissent pas les droits, non seulement le droit inconditionnel à la littérature, mais les droits fondamentaux, les droits de l'homme fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le théologico-politique, la démocratie, la tradition des Lumières? Et je pense personnellement, en ce sens que j'ai insisté hier matin, je pense que si nous ne menons pas simultanément ce travail de réflexion philosophique, pas seulement sur un mode théorique, mais aussi à travers des œuvres littéraires, à travers une nouvelle poétique de la langue, une nouvelle pratique de la traduction, au fond, ce que nous ferons sera peut-être utile, mais très limité, et reproduira des mécanismes que je ne veux pas critiquer, mais qui sont insuffisants.
Qu'est-ce qui en France pourrait signifier un danger pour un écrivain si jamais il le disait?
Pardon, excusez-moi.
Qu'est-ce qui en France peut être objet de censure ou de danger de vie pour un écrivain?
Il n'y a pas. Hier, justement, la librairie, en distinguant entre censure douce et censure dure, en France, il n'y a pas. Un écrivain ne risque pas sa vie à dire ceci ou cela. Il risque quelquefois de ne pas être publié, de ne pas publier là où il le voudrait, d'être marginalisé. Mais c'est pas simplement la censure, c'est-à-dire c'est pas simplement sur les déclarations athées ou révolutionnaires. Elle est beaucoup plus subtile. Alors nous voulons aussi analyser les mécanismes de censure plus symboliques, plus subtils dans les pays qui sont fiers d'être des pays démocratiques. Heureusement. Ça n'est pas une question de vie ou de mort à chaque coin de rue. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de censure, qu'il n'y a pas d'oppression, qu'il n'y a pas de violence. Il y a aussi de la violence, d'autres formes de violence, plus subtiles, plus souvent invisibles. Le mécanisme de l'édition, par exemple. Il est évident qu'on ne publie pas qui veut, hein, et qu'il y a toutes sortes de normes, de barrières, de structures éditoriales, de groupes de pression. Alors c'est difficile d'en parler très vite, mais il y a des mécanismes de censure, et en tant que Parlement qui s'est donné comme mission de lutter contre la censure et la répression, nous devons aussi nous intéresser à ces censures subtiles et douces, disons, dans nos propres, chez nous.
Merci.
Voilà.
Je ne vous ai pas dit grand-chose.